Dieu ne semble pas à l'écoute aujourd'hui. Nous sommes si peu de choses dans le vaste monde, soupirerait Nina. Mais le grand lab se rapproche, en concurrence avec la marée. Les jambes déjà engourdies, elle sent l'eau glaciale mouiller le creux de ses genoux, ses cuisses et jusqu'à son dos. C'est 15 minutes de trop sur la grève, il est temps de rentrer dîner. Elle extirpe de sa poche la lettre trempée d'eau de mer, en fait un rouleau qu'elle introduit dans le goulot de la bouteille et ajoute un peu de sable avant d'enfoncer le bouchon. La prochaine vague l'emportera, flottant sur le côté, tournoyant dans l'écume jaune. Juste au-delà, il y a un creux profond où les vagues font la culbute d'avant en arrière. Il est l'heure d'effectuer un dernier survol de la zone par la pensée. Elle décolle lentement, comme un hélicoptère de sauvetage, à la recherche d'une fillette perdue sur la côte. Le pilote se penche hors de l'appareil et crie dans son porte-voix
« À table, Agustina ! Du poisson-loup à la poêle et de la compote de rhubarbe à la crème fouettée en dessert !»
Chapitre 2. La maison où elle doit se rendre au plus vite se situe dans la rue la plus haute du village. D'un côté, il y a la mer, de l'autre la montagne, point culminant de la contrée, centre et pivot de la bourgade, qui domine de ses 844 mètres la plage de sable noir. La tour violette dote la maison d'un cachet indéniable. Son origine reste obscure, de même que sa fonction. Quant à sa couleur, c'est que Vermundur avait reçu en cadeau des restes de peinture rose saumon et violette. En bas, on trouve le salon, la cuisine et la chambre de Nina. La chambre d'Agustina se situe dans la tour. Malgré sa peur vertigineuse du vide, elle s'est convaincue d'emprunter l'escalier abrupt afin de bénéficier d'une vue tout azimut. Sur les toits de tôle ondulée qui prennent des reflets d'argent après la pluie, vers le sommet de la montagne et sur le clocher de l'église, l'autre tour du village. Même s'il lui faut gravir, en rampant sur le lino usé, un total de 13 marches. Depuis son lit dans la chambre haut-perché, on ne voit plus la terre, comme si la tour flottait sur la mer. Vermundur a son atelier au sous-sol. Il répare tout ce qui tombe en panne pour les épouses des marins partis au loin, radio ou réveil. Il débouche les éviers, change les conduites, remplace les vitres brisées par les tempêtes. Nina et elle bénéficient à discrétion de tous les services qu'un homme peut rendre. En ce moment, il donne dans les télés et se fait fort de procurer à Nina un poste Bluepunkt de qualité. Perplexe, Nina se demande quel emplacement lui trouver dans le petit salon. D'ailleurs, elle a déjà la radio. Aujourd'hui, ce ne sont plus des guerres de 100 ans, mais des guerres de 6 jours. Vermundur a un pick-up dans son atelier et la musique monte du sous-sol. Les Kings.
Yeah, you already got me, girl, you already got me now.
Chapitre 3. Dans la rue de la maison Rose Saumon, on trouve le commissariat avec sa cellule pour deux et l'église. Et bien au-delà des habitations et des derniers jardins du village, au flanc de la montagne, à un emplacement défiant l'entendement, est perché le jardin de rhubarbe. Un carré bien net, de tiges d'un rouge éclatant coiffé de vert, dont nul ne connaît l'origine et que personne ne se soucie de cultiver. Son lopin de terre privé, à elle, tout comme la grève. Il lui avait fallu beaucoup d'énergie et de ténacité pour grimper jusque là-haut sous la pluie, toute seule, avec ses béquilles. Même l'oiseau avait viré de bord. Là, au 66e degré de latitude nord et à 200 mètres au-dessus du niveau de la mer, la rhubarbe atteignait 60 centimètres en août, mois privilégié pour sa récolte dans l'île. Une hauteur suffisante pour dissimuler deux corps nus étendus de tout leur long. Elle-même en avait fait l'expérience, d'abord